magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro du magazine des Nations Unies. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Qu'en est-il de la force internationale neutre appelée à être déployée dans l'est de la RDC? Quel rôle la MONUSCO devra-t-elle jouer par rapport à cette force? Et à quand la signature de l'accord cadre après le report intervenu lundi dernier à Addis Abeba? Toutes ces questions ont été posées au cours de la conférence hebdomadaire de Nations Unies. Nous en parlerons dans ce numéro avec les porte-paroles de la MONUSCO. Aucun nouveau cas de poliovirus sauvage enregistré en 2012 en RDC, mais un autre défi reste à relever, diminuer le taux de mortalité infantile. Il faut pour cela s'attaquer notamment à la rougeole et à la malnutrition sévère. Dans quelques instants, la déclaration de la représentante de l'UNICEF en RDC sur le sujet. Et puis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert quant au déploiement des drones dans l'est de la RDC. Le porte-parole militaire de la MONUSCO décortique ce concept de drone avec Jean-Pierre Elali Coco dans Décryptage. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Les chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs ont décidé de remettre à plus tard la signature de l'accord cadre pour la paix à l'est du pays. Ce document devrait être signé le lundi 28 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Conséquence de ce report, le projet de la mise en place d'une force internationale neutre pour l'est de la RDC est également repoussé. Au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa, les porte-paroles de la MONUSCO ont répondu aux préoccupations des journalistes sur le report de l'accord de paix et sur la mise en place d'une force internationale neutre en RDC. Honoré Missenga Kalala pour les détails.
Concernant le report de la signature du plan régional de paix dans l'est de la RDC, le lieutenant-colonel Bass se veut plutôt optimiste.
Effectivement, la signature de cet accord cadre a été reportée. Nous pensons que très bientôt, elle arrivera à terme. De toutes les façons, les discussions se poursuivent. Je pense qu'au niveau stratégique, les gens sont en train de réfléchir aux voies et moyens pour arriver quand même à lever un peu cette barrière qui freine la mise en œuvre de cette force qui doit être déployée incessamment. Donc je pense que pour le moment, les choses sont en train de progresser sur le plan diplomatique et politique. Espérons que d'ici peu, ça se fera.
À propos de cette force internationale neutre, le porte-parole militaire de la MONUSCO fait une mise au point pour mettre fin à ce qu'il appelle de l'amalgame entretenu et précise le rôle de la MONUSCO.
D'abord, l'initiative, il faut le préciser, vient des chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, qui a elle-même proposé ou suggéré la mise en place d'une force neutre qui serait à même de pouvoir traquer les groupes armés, toutes tendances confondues, M23, FDLR, etc., etc. Ce concept n'est pas un concept de la MONUSCO, c'est un concept des chefs d'État. La MONUSCO a toujours été là pour aussi bien accompagner justement cette initiative, mais il faudra préciser que cette force internationale neutre ou cette brigade d'intervention, parce qu'effectivement cette force sera traduite au point de vue formant en une brigade d'intervention, en tout cas selon les propositions en cours, qui sera bien entendu intégrée aux forces globales de la MONUSCO, mais avec une mission différente compte tenu de notre mandat.
Justement à ce sujet, Mano Dimounoubaye, porte-parole de la mission onusienne, insiste sur le rôle de la MONUSCO.
Nous travaillons dans les limites qui nous sont imposées par le mandat que nous donne le Conseil de sécurité. Et nous nous serons allés au-delà de ce mandat-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la force internationale neutre qui doit être déployée à l'est de la République démocratique du Congo n'est pas encore sur le terrain. Parce qu'il faut délimiter, il faut clarifier, il faut dire exactement quel sera le rôle de cette force et lui donner un mandat aussi clair pour conduire son action sur le terrain. Donc, chaque force ne peut travailler que dans les limites du mandat qui lui est imposé.
En attendant, la MONUSCO continue d'assurer la protection des civils et l'appui au FRDC conformément à son mandat.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Connaissez-vous les drones? Peut-être pas. Pourtant, ces aéronefs pourront prochainement voler sur le ciel congolais. Le Conseil de sécurité a donné son feu vert au secrétaire général des Nations Unies pour leur déploiement dans l'est de la RDC. Qu'est-ce qu'un drone? En quoi est-il différent des autres avions? Jean-Pierre Elali Koko s'entretient justement à ce sujet avec le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Basse, dans ce décryptage.
Colonel Félix Basse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être dans ces studios pour répondre à nos questions.
Oui.
Et nous allons décortiquer les termes drone. Selon le général Babacar Gaye, conseiller militaire de Ban Ki-moon, le Conseil de sécurité a donné le feu vert au secrétariat général des Nations Unies, donc logiquement à la MONUSCO, pour l'usage des drones dans les conflits dans l'est de la RDC. Colonel, qu'est-ce qu'on entend par drone?
Oui, merci pour votre question. D'abord, il faudra préciser que le drone est un aéronef qui est commandé à distance et qui est destiné à remplir des missions de surveillance, des missions de surveillance, de renseignement, de combat et parfois même de transport. Qui sont tous souvent utilisés par les forces armées ou les forces de défense et de sécurité, notamment la police et la douane.
À quoi il se différencie de d'autres avions de guerre, par exemple?
Le drone, il faut distinguer que c'est un aéronef qui est sans pilote. En fait, il a un pilote qui est au sol, parce qu'il faut distinguer, il y a deux types de drones. Il y a des drones qui sont assistés au sol par un pilote, et il y a des drones qui sont complètement autonomes. Donc, l'assistance au sol par un pilote permet de réaliser le décollage et l'atterrissage en toute sécurité de cet engin-là.
Et alors, quel impact son usage peut-il avoir dans la résolution d'un conflit comme celui de l'Est et de la RDC? Est-ce qu'on peut arriver à résoudre ces conflits grâce aux drones?
Non, le problème de l'utilisation des drones n'est pas, la solution finale à la résolution de la crise ou à l'est de la République démocratique du Congo. Au contraire, le drone sera un outil qui sera utilisé pour surveiller, pour une surveillance transfrontalière, parce que comme vous le savez, des allégations ou des accusations ont été portées sur le soutien que les groupes armés pourraient recevoir de tel ou tel pays. Donc les drones permettront l'acquisition de l'information, permettront la surveillance de la frontière, le mouvement des troupes le long de la frontière et permettra plus tard peut-être à la force qui sera mise en œuvre de pouvoir recueillir les informations et de les utiliser.
Colonel, vous parlez de surveillance, alors pourquoi le Rwanda et l'Ouganda se sont-ils opposés au départ, je dis bien au départ, au déploiement de ces drones sur la frontière entre leurs pays respectifs et la RDC?
Mais vous avez bien dit, vous avez bien raison de souligner que c'était au départ, parce qu'il y a eu une évolution positive de l'utilisation de ces drones, une évolution positive quant à la décision de ces deux pays initialement. Mais pour l'histoire, comme vous et moi, nous avons bien entendu ou lu dans les journaux la déclaration d'un chef d'État qui disait qu'il était un peu opposé à l'utilisation des drones.
Pourquoi?
Justement parce qu'il disait que l'Afrique ne devrait pas constituer un laboratoire d'essai pour les services de renseignement étrangers. Donc ça, c'était l'une des raisons qui avait été initialement avancée. Mais nous avons vu que les choses ont évolué et que de manière bien précise, les choses ont évolué et que les pays ont accepté le déploiement de ces drones-là.
Voilà. Et est-ce qu'il y a dans le monde un pays où les Nations Unies ont utilisé des drones dans le cadre d'une mission de maintien de la paix? Est-ce qu'on peut avoir un exemple dans le monde?
D'abord, il faut d'abord faire l'historique de cette histoire de drones en RDC.
Oui.
C'est une vieille requête de la MONUC à l'époque, avant la MONUSCO, parce que si vous vous rappelez bien, en 2008, M. Alain Doss, qui était le représentant du secrétaire général des Nations Unies au Congo, avait formulé cette requête auprès des Nations Unies pour permettre la prise de décision rapide sur la base d'informations que ces drones auraient pu recueillir et mettre à la disposition des troupes. Et donc c'est une vieille requête qui a été remise sur la table. Et comme vous le savez, le mois dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, avait adressé une lettre aux 15 membres du Conseil de sécurité pour demander justement que ces drones soient mis à la disposition de la force pour pouvoir faire le travail, mais à titre expérimental, en tenant compte du cas par cas.
Donc on peut dire que c'est cette expérience-là, c'est la toute première fois en République démocratique du Congo, pas ailleurs.
Oui, la toute première fois en République démocratique du Congo par rapport aux Nations Unies. Mais n'oubliez pas qu'en 2006, pendant les élections au Congo, le SEC avait eu à déployer un drone pour la surveillance de Kinshasa, pour permettre l'acquisition de renseignements rapides, mais les Nations Unies vont le faire à titre expérimental.
Colonel, vous avez dit tout à l'heure que un drone, c'est un avion sans pilote.
Oui.
Et alors, quelles sont ses limites? Est-ce que un drone a des limites?
Vous savez, comme tous les engins, tous les engins ont des limites. Ça veut dire que ce n'est pas la panacée de la solution à la crise en RDC, mais c'est un multiplicateur, si vous voulez, pour la force, dans la mesure où il permettra d'acquérir des informations à temps et de pouvoir les exploiter. Même si c'est un avion sans pilote, il y a toujours au sol quelqu'un pour recueillir les informations qui sont envoyées par le drone, les analyser et pouvoir les traduire, si vous voulez, en ordre opérationnel qui permette d'apporter les solutions à une crise bien précise. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes.
Oui, dernière question. Quand est-ce que on peut voir ces drones en République démocratique du Congo?
Là, je ne saurais le dire franchement. Comme vous le savez, il y a une montée en puissance d'une force qui se prépare et cette force n'est pas encore déployé et effectivement, le feu vert a été donné au secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, par le Conseil de sécurité pour l'utilisation des drones. Maintenant, quand est-ce que ces drones seront déployés, avec qui seront déployés, tout ça, c'est un certain nombre d'informations qui restent à préciser et dont je n'ai pas, qui ne sont pas en ma possession pour le moment.
Voilà, je rappelle à nos auditeurs que nous recevions colonel Félix Bassé et vous êtes porte-parole militaire de la MONUSCO. Colonel, vous avez un dernier mot pour terminer?
Oui, peut-être juste pour dire que les choses avancent positivement au plan diplomatique, comme vous le savez, avec toutes ces réunions qui se tiennent aussi bien à Kampala, les pourparlers à Kampala
et
à Addis Abeba aussi, oui. Et l'implication de plusieurs organisations internationales, dont sous-régionales, dont la SADC ou la Conférence internationale pour les Grands Lacs. Donc nous espérons tout simplement que dans un avenir très proche, la paix pourra revenir au Congo et nous le souhaitons de tout cœur. Mais du côté de la MONUSCO et de sa force, nous poursuivons l'application de notre mandat et nous nous évertuons à apporter un peu plus de répit aux populations de l'Est qui souffrent dans leur chair de toutes ces activités négatives des groupes armés.
Oui, c'est avec ces souhaits sur le retour de la paix en République démocratique du Congo que nous terminons cet entretien. Colonel Félix Bassé, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Nouvelle Ambresse, plus de 100 000 personnes ont bénéficié d'une assistance en vivres du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, à Goma, dans la province du Nord Kivu, selon OCHA. La distribution de ces vivres a démarré le 21 janvier 2013, s'est poursuivie la semaine dernière, notamment à Rutshuru et à Kichanga, en faveur de plus de 74 000 personnes déplacées. Développement, consolidation de la paix, planification du développement, croissance inclusive, changement climatique et gestion de ressources naturelles, tels sont les domaines d'intervention contenus dans le programme Pays du PNUD en RDC pour la période 2013-2017. Un programme qui doit d'abord être validé à la session ordinaire annuelle du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement. La réunion se tient à New York depuis lundi dernier. Les objectifs du millénaire pour le développement devraient être atteints en 2015. À 2 ans de l'échéance, une enquête a été ouverte à tous les citoyens de la planète. Il s'agit de choisir les 6 qui pourraient avoir le plus d'impact sur la vie future de la population parmi les 16 sujets proposés. C'est une enquête en ligne. Le site de contact, c'est www.myroad2015.org. À noter que la RDC est l'un des 65 pays au monde dans lesquels les consultations ont été lancées dans le cadre des OMD par les Nations Unies et leurs partenaires. Enfin, accès limité à l'eau potable, mais aussi non-observance des règles hygiéniques, ainsi que dysfonctionnement du système de santé. Voilà les causes majeures de la persistance de l'épidémie du choléra en RDC. C'est l'une des conclusions auxquelles sont parvenus les spécialistes de lutte contre le choléra réunis en atelier à Kinshasa le mois dernier. Un atelier placé sous l'égide de l'OMS et du ministère de la Santé. Ocha révèle notamment que toutes les provinces de la RDC ont été touchées par l'épidémie du choléra ces deux dernières années, à l'exception du Kasaï occidental et du Kasaï oriental.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le 27 janvier dernier, c'est la journée mondiale consacrée aux lépreux. À cette occasion, nous recevons dans cette édition le docteur Diallo Nouhou. Il est conseiller technique de l'OMS en RDC pour l'encocercose et les autres maladies tropicales négligées, MTN. Il nous fait le point de la lutte anti-lépreuse en République démocratique du Congo. Avec vous, Honorine Senga Kalala.
Docteur Diallo, bonjour.
Bonjour.
Une journée consacrée aux lépreux. Quel est l'état des lieux de la lutte contre cette maladie de la peau en République démocratique du Congo, vue par l'OMS?
Vous me demandez la situation de la lèpre en République démocratique du Congo. Je voudrais vous dire que la RDC, comme beaucoup d'autres pays africains, a atteint le seuil d'élimination de la lèpre dans l'ensemble. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble du pays, qui est de moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Mais évidemment, ça cache un certain nombre d'éléments de disparité entre les provinces. Alors, si vous prenez la RDC, on dit que la RDC fait partie des pays qui ont éliminé la lèpre, selon le seuil de l'OMS. Mais à l'intérieur de la RDC, vous avez des provinces, et aussi des districts, et même des zones de santé, où il y a une différence.
C'est un paradoxe quand même.
Ce n'est pas un paradoxe. Il faut noter qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a que deux pays qui n'ont pas atteint ce seuil, c'est la Sierra Leone et la Tanzanie, qui n'ont pas atteint encore ce seuil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des facteurs qui font que certaines communautés ne sont pas facilement accessibles. Il y a aussi le mouvement de population. Il y a les réfugiés. Mais on note quand même une diminution, puisque en 2011, nous avons notifié ce qui a été répertorié au niveau du programme national d'élimination de la lèpre de la RDC, près de 4000 cas. Alors que jusqu'au troisième trimestre de l'année 2012, nous n'avons pas encore tous les rapports provenant de toutes les zones de santé, mais jusqu'au troisième trimestre, il n'y avait encore que 3000 cas notifiés. Donc il y a une baisse en fait. Mais vous prenez certaines zones de santé dans des provinces qui sont encore plus endémiques que d'autres, et parce qu'elles sont plus enclavées, ou alors parce que par exemple les réfugiés sont revenus, des réfugiés congolais qui étaient en Tanzanie, qui sont rentrés, par exemple, dans la partie nord-est du Katanga, telle que la zone de Moba et ses environs, vous trouverez beaucoup plus de cas de lèpre là-bas, parce qu'on a estimé que ça a été rapporté de la Tanzanie.
Mmh. À part le Katanga, quelle autre province est encore frappée par cette maladie?
Il y a l'Équateur, avec les populations pygmées, dans certaines communautés qui sont difficilement accessibles, mais aussi la province orientale.
Il n'y a que les pygmées, les réfugiés qui sont frappés par la maladie?
On a dit qu'il faut qu'il y ait moins d'un cas pour 10 000 habitants. Alors si vous prenez par exemple une aire de santé, n'importe laquelle, une aire de santé qui a environ par exemple 5 000 habitants et qui rapporte un seul cas de lèpre, ça signifie que la prévalence pour cette aire de santé est de 2 cas pour 10 000. Donc ça veut dire que ça dépasse largement le seuil admis au niveau international par l'Organisation Mondiale de la Santé. Parce qu'il faut que ce soit moins d'un cas. Si nous prenons l'ensemble des cas qui ont été notifiés en RDC en 2011, vous êtes à 0,567 cas. Donc on va dire que effectivement c'est inférieur à 1 cas pour 10. Mais vous prenez certaines aires de santé qui vont notifier peut-être un seul cas de lèpre, ça peut être de la population pygmée, des réfugiés, ou même les autochtones qui sont là, qui ne sont pas pygmées ou réfugiés. Mais comme souvent ces populations-là sont dans des situations un peu difficiles, où l'accès des soins est difficile, ou même l'accès géographique est difficile, ce qui pose problème de dépistage et de prise en charge du cas.
Quels sont les obstacles, selon vous, à l'élimination définitive de la lèpre en République démocratique du Congo?
Il y a l'inaccessibilité géographique de certaines aires de santé. Il y a l'existence de beaucoup de zones de santé non fonctionnelles. Ça veut dire que même s'il y a une infrastructure, mais il n'y a pas de personnel. Ou alors le personnel est là, mais il n'est pas formé, il n'a pas la compétence en la matière. Ou alors les médicaments n'arrivent pas. Donc il y a l'inaccessibilité géographique et de soins. Il y a donc l'insuffisance de la couverture sanitaire dans l'ensemble du pays. Mais il y a donc la faiblesse des services de santé. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones de santé, même si tout est possible, il est possible d'y accéder, le personnel est disposé. Parfois, ils n'y vont pas parce que il y a l'insécurité. Donc, voilà autant d'obstacles qui peuvent encore entraver l'atteinte de l'élimination totale.
Docteur, la part de l'OMS dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo?
La part de l'OMS est très grande. Il faut noter que l'Organisation mondiale de la santé, d'une manière générale, c'est en 1990 qu'elle a lancé le slogan d'élimination de la lèpre d'ici l'an 2000. Certes, aujourd'hui, dans le monde, il n'y a que trois pays où on dit que ce seuil n'est pas atteint. Il y a l'Inde et les deux pays africains que je vous ai cités tantôt. Mais l'Organisation mondiale de la santé apporte déjà le renforcement des capacités, des compétences techniques, prestataires de services. Il y a la définition des directives techniques pour aider les pays justement à atteindre ces objectifs-là. Et il y a aussi la fourniture à médicaments. Il faut noter que le traitement de la lèpre est gratuit. Et donc, c'est l'OMS qui fournit les médicaments et cela est aussi longtemps que ce sera nécessaire. En tout cas, il y a une disponibilité au moins pour jusqu'en 2015. Il n'y aura pas de rupture en la matière, en matière de médicaments. Et il y a aussi l'évaluation des progrès qui se fait. Donc, tous ces services-là sont apportés par l'Organisation mondiale de la santé avec d'autres partenaires qui sont impliqués dans la lutte contre la lèpre.
Oui, après l'échéance 2000 qui est passée, quelle est la prochaine échéance?
Et il a été dit lors de l'une des conférences au niveau du siège de l'OMS qu'aujourd'hui on va essayer de l'aller plus en profondeur, c'est-à-dire au lieu que ce soit un objectif d'élimination par pays, on va parler d'objectif d'élimination par région, c'est-à-dire par province ou par district sanitaire. Donc aujourd'hui on peut se fixer pour dire par exemple pour un programme de lutte contre la lèpre, on pourrait dire qu'on va réduire d'environ 50% par exemple du nombre d'aires de santé qui pourraient rapporter de cas. Et donc, on s'est fixé d'ici 2015, non seulement d'avoir moins de 50% de structures de santé qui rapportent des cas de lèpre, mais également réduire à 35% la proportion des infirmités dues à la lèpre.
Ça, c'est au niveau mondial, au niveau régional
ou... Ça, c'est au niveau mondial. Tous les pays adhèrent à cette stratégie parce que ces directives sont... bon.
Oui, mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent toujours que la lèpre est une maladie, donc un mauvais sort?
Non, il faut qu'on abandonne ce genre de rhétorique. C'est parce que c'est par l'ignorance. Sur le plan de l'histoire, les premiers manuscrits sur la lèpre remontent à 600 ans avant Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on continue en 2013 à dire encore que c'est le mauvais sort. La lèpre est due à une bactérie qui a été bien identifiée, c'est le mycobactérium lépreux. Donc scientifiquement démontré que c'est sans ce microbe, on ne peut pas avoir la lèpre.
Docteur Diallo, merci.
La nouvelle de province de cette édition nous emmène à Kasenga, dans la province du Katanga, où Barbara Benten, représentante des fonds des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, était la semaine dernière en mission de travail. Elle annonce une bonne nouvelle. Aucun cas de polio n'a été enregistré tout au long de l'année 2012. En revanche, Barbara Benten a souligné que la mortalité infantile demeure encore une priorité en RDC. Et pour 2013, les efforts de l'UNICEF se focaliseront notamment dans la lutte contre la rougeole et la malnutrition sévère qui en sont les causes. Ces propos ont été recueillis par Denise Maéo.
Nous attendons les derniers résultats, mais a priori, la dernière année, nous n'avons pas eu de cas de polio, ce qui est un acquis formidable. Évidemment, il y a d'autres grands défis. Maintenant, il y a beaucoup de rougeole. Nous avons fait beaucoup de travail de lutte contre la rougeole, mais c'est encore insuffisant. Et là, nous sommes en train de mobiliser des ressources additionnelles. Nous continuons à lutter contre la malnutrition, notamment la malnutrition sévère aiguë qui tue. Et là, nous avons quand même pu prendre en charge 220 000 enfants avec un taux de guérison quand même très très notable.
Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les priorités pour 2013?
La première grande priorité, lutter contre la mortalité des enfants. Il y a trop d'enfants qui continuent à mourir alors qu'on sait comment prévenir cette mort et c'est trop injuste, donc ça c'est notre très grande priorité.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Monsieur Boyo Bouhiri Jean-Camille, connu à la MONUSCO sous le sobriquet de Anako Anaconda Base. Je suis marié, père de 5 enfants. Je suis détenteur d'un diplôme de graduat en anglais et culture africaine. et ensuite j'ai fait une formation en informatique de gestion. Je suis dispatcher à la MONUSCO et ma fonction est le responsable du programme des chauffeurs au sein de cette unité. C'est depuis 2002 que je suis à la MONUSCO. Chaque matin, dès 6h lorsque j'arrive au bureau, je demande des nouvelles à mon collègue qui s'appelle Fakage. C'est le dernier qui commence avant moi, il me donne les tâches et j'ouvre la machine pour voir les résumés, les demandes de transfert formulées par nos clients. Et après cela, je m'étale à répondre à leurs demandes. Ah, je donne le programme aux chauffeurs. C'est moi qui élabore le programme de week-end pour tous les chauffeurs de Kinshasa. Vous comprendrez avec moi que la ville province de Kinshasa est assez grande et nous avons divisé nos bureaux de dispatch à 3 parties. Il y a un côté qui dessert pour le compte de l'aéroport, c'est à Incal. L'autre, c'est pour le compte de la ville, c'est le quartier général de la MONUSCO. Et l'autre, c'est à Itex, c'est la direction générale en fait, de l'unité de dispatch qui dessert du côté de Mbinza. Ma tâche, le vendredi, c'est de faire un programme pour les chauffeurs qui vont faire le week-end afin d'aider nos clients à se déplacer. Et le dimanche matin, j'arrive au bureau de 9h à 11h pour en fait, élaborer le programme pour la projection de la semaine. La projection de la semaine, c'est en fait un programme que nous élaborons pour donner le moyen et pour donner la tâche à tous nos collègues afin qu'ils puissent savoir là où ils vont travailler, là où ils vont prester toute la durée de la semaine qui va suivre. Leur début de travail, leur lieu de travail et puis leur outil de travail qu'ils vont utiliser. Tout cela sous la haute supervision de M. Hubert Pierre et de M. Atanas. Avant la MONUC, je travaillais au sein d'une boîte SPR qui s'appelait Bomasso. J'étais toujours le responsable du transport et après cela, je suis allé donner mes services au gouvernorat de la ville-province de Kinshasa sous l'égide du gouverneur Mongolo Diak. En fait, j'étais l'assistant rapproché au transport pour le compte du gouvernorat de Kinshasa. Après mon travail, je rentre chez moi à la maison, m'occuper de ma famille et j'aime vraiment la télé. J'aime la télé et la télé, ce que j'aime à la télé, c'est les informations et ensuite les documentaires. Comme tout Congolais qui se respecte, j'aime la musique. Et la musique de mon enfance, c'est les Zaïko. Zaïko Langalanga, c'est une musique qui m'a vu grandir. Et je peux essayer d'entonner un petit son musical. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, go go go, samedi soir. Ngana zangi, oyabima nangaye, onowele, elekio, obonane, elekio, obasanza mikolo na bambula, elekio. Bon, mon projet d'avenir, c'est après le départ de la MONUSCO, avec les concours des amis et les certains internationaux, d'ouvrir une boîte de transport ici, parce que nous avons la maturité et nous savons comment gérer à travers la formation que nous avons eue au service des dispatchs de Kinshasa. Je vous remercie.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Olivier Godoma, gestionnaire financier de formation et observateur économique. Ma question s'adresse au PNUD. Au cours d'un voyage dans le province nord et sud Kivu, en décembre dernier, j'ai appris que le PNUD a mis en place des centres communautaires polyvalents, CCP en sigle. Qu'est-ce signifie un CCP et quelle est leur importance dans un environnement marqué par des conflits et de nombreux déplacés? Je vous remercie.
Nous avons contacté à partir de Goma Anne-Marie Labintou, experte en genre du programme de lutte contre la pauvreté du PNUD au Nord Kivu. Anne Labintou, bonjour. Que répondez-vous à Olivier Godoma?
Merci, monsieur Olivier Godoma, pour votre question. Les centres communautaires polyvalents, comme vous l'entendez, c'est un centre d'autopromotion communautaire dont la gestion est prise en charge par la communauté elle-même. Ce centre a juste 3 missions. Elles visent à améliorer les conditions économiques des femmes, y inclut les victimes de violences sexuelles, sans les stigmatiser. En deuxième lieu, le centre favorise la promotion de la prise de décisions de femmes et leur intégration dans les communautés de leur choix. Elle veut aussi promouvoir les changements de comportement par rapport à l'égalité du genre. L'importance des CCP, comme vous venez de le demander, se traduit par la réponse qu'il apporte aux divers problèmes de violence basés sur le genre dans un environnement post-conflit. Il favorise la vulgarisation de mutuelles de solidarité, non seulement pour promouvoir la cohésion sociale, mais aussi pour permettre à ces femmes vulnérables, dont les victimes de violences sexuelles, d'accéder au microcrédit et à l'épargne. Les centres communautaires polyvalents donnent aux membres de la communauté, et particulièrement aux femmes, l'occasion d'apprendre un métier et lui donnent la possibilité aussi d'effectuer une activité génératrice de revenus pour subvenir aux besoins de survie. Pour leur intégration dans la communauté, les centres offrent des activités de formation et d'information sur le droit de la femme, sur les violences basées sur les genres, sur le leadership féminin et sur les VIH/SIDA. Ces activités se véhiculent aussi par l'alphabétisation fonctionnelle et conscientisante qui sont offertes au niveau des centres communautaires polyvalents. Une écoute et une orientation vers les services spécialisés, notamment la prise en charge psychosociale, la prise en charge médicale et aussi mise à disposition de la communauté et très particulièrement aux personnes traumatisées par les viols et autres problèmes que connaît un environnement post-conflit. Le projet d'autonomisation et de la réinsertion socio-économique des femmes vise bien à pouvoir appliquer la même approche dans toutes les provinces, mais comme vous le savez, tout dépend des moyens. Et pour le moment, le projet était financé par le bureau de prévention des crises, de PNUD, mais le centre pour le moment a toujours besoin de beaucoup de financement parce qu'il y a encore des défis à relever là-dessus. Pour le moment, il y a 12 centres communautaires polyvalents dans les deux Kivu, dont 6 au sud Kivu et 6 au nord Kivu. Il y a 2 centres qui sont en train d'être mis en place dans la province de Maniema.
Merci Anne-Marie pour tous ces éclaircissements sur les CCP et j'espère qu'Olivier Godoma, l'auteur de la question, ainsi que tous nos auditeurs sont satisfaits de votre réponse.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capitaine.
Retenez les dates suivantes dans votre agenda pour la semaine prochaine. Déjà demain, lundi 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le 6 février, c'est à la fois la journée mondiale sans téléphone mobile et la journée internationale contre les mutilations génitales. Notre magazine se propose de couvrir les activités des agences onusiennes au courant de ces journées. C'est la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies, supervisé par Nicole Ngaka, à la coordination Jean-Pierre Elali Coco, Honoré Missenga était en reportage, Mila Kimwini vous l'a présenté avec l'assistance technique de Jean-Noël Mkondo. Vous pouvez réécouter cette émission tout à l'heure à 19h03, heure de Kinshasa, même heure à Matadi dans le Bas-Congo. Vous pouvez également retrouver le magazine sur www.radiookapi.net. Vos suggestions, questions ou remarques, vous pouvez nous les faire parvenir en postant un commentaire en dessous de l'émission sur le site internet ou carrément en appelant au 082 30 76 630. Excellente journée dominicale à tous.